Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour, c'est la semaine de Cannes. Bienvenue à Cinérama, émission hebdomadaire de cinéma. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Et de Cannes, il sera effectivement question, Marine. Tu vas nous faire une petite chronique sur l'ouverture du festival.
Oui, voilà, je vais vite fait un petit peu vous parler des films les plus attendus, du jury, etc. Voilà, faire un petit tour d'horizon avant d'y aller faire un tour moi-même.
Et puis, il sera aussi question de films que nous allons chroniquer, que nous avons vus cette semaine, pas beaucoup d'ailleurs. Il y aura Girls Only pour Marine.
Oui, de Lynn Shelton.
Et puis, toi, Manu, tu as vu Pyramide.
Oui, bien sûr.
Et à la fin de l'émission,
je parlerai du Corman dont je devais parler la semaine dernière, Intruder.
Et moi, je vous donnerai quelques mots sur Partisan d'Ariel Kleiman. Et puis, si vraiment on a le temps, je vous parlerai de Certifié à l'aile qui sort ce mercredi 13 mai. Et n'oublions pas que nous allons jouer aussi un blind test. Nous écouterons 5 extraits de films post-apocalyptiques. Tout ça pour fêter, nous aussi, à notre manière, le reboot, comme on dit, de Mad Max.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on commence donc avec Girls Only, que je me suis sacrifiée pour aller voir. Alors, réalisé par Lynn Shelton et présenté à Sundance, on ne sait d'ailleurs pas très bien pourquoi, Girls Only semble en premier lieu rejoindre la masse insipide des films pour filles. Des films au contenu profond, aux titres éloquents tels que « Quatre filles et un jean », « Comme Cendrillon »,« Ce que pensent les hommes »,« 10 bonnes raisons de te larguer », dans lequel d'ailleurs a commencé Heath Ledger, et ça il s'en est pas vanté. L'histoire est celle de Meg qui approche de la trentaine et n'arrive pas à trouver un sens à sa vie, immature. Elle ne se sent pas à sa place parmi ses amis qui se marient et font des enfants. Lorsque son petit ami la demande en mariage, elle panique et s'enfuit avant de tomber sur Annika, 16 ans, avec qui elle se lie d'amitié. Elle se donne alors une semaine pour régresser allègrement avec sa nouvelle vie avant de reprendre sa vie en main, mais c'était sans compter l'idylle naissante avec le père de l'adolescente.
Hé, hey, excuse-moi. On a tous oublié nos cartes d'identité. Accepterais-tu de nous acheter des bières?
On a fait ça pour moi, à ton âge. C'est un rite de passage, non?
J'ai besoin d'un break.
Deux mocha cappuccino. On fait la fête.
Oh, t'es tellement mignonne.
Tu l'achètes?
Tu devrais, ouais.
Tu devrais venir
à mon bal.
Ou bien rentrer chez moi.
Non, je t'en prie. Ta place est auprès de nous.
T'étais pas là quand Savannah a eu son bébé. Tu es sa marraine.
Mais c'est qui ça?
C'est elle qui te vend de la drogue.
T'as déjà entendu parler de l'histoire de la trentenaire qui traîne avec des ados?
Non, pourquoi?
Eh ben moi non plus, jamais entendu.
Alors, la comédie américaine avait initié, notamment avec Jude Apatow, le genre de la bromance. Ces histoires d'amitié entre hommes où il est question du passage à l'âge adulte et qui tournent grossièrement autour de cette interrogation, qui choisir entre sa copine ou ses potes. Eh bien, il faut maintenant compter avec le genre de la romance, qui est son pendant féminin. Car malgré les apparences girly gnangnan sur lesquelles repose la promo du film Girls Only, c'est en fait un peu moins décérébré qu'il n'y paraît. Certaines fulgurances du film, qui basculent sans préavis du film pour ados à une sorte de parodie-trash des comédies romantiques, laissent comprendre que l'ensemble est légèrement moins moralisateur que prévu. Le titre original n'a d'ailleurs rien à voir, puisqu'il s'agit de « Ladies », que l'on peut traduire par « les flâneuses », mais pour lequel j'ai aussi trouvé une définition un peu surprenante. L'aiguise désigne également une maladie causée par la masturbation chronique. Alors ça, je ne comprends pas le rapport, mais bon, bref, à creuser plus tard. Keira Knightley, donc, qui tient le rôle principal, fait du Keira Knightley à 2000%. N'allez pas voir le film si vous ne la supportez pas. Et c'est vrai qu'il est un peu regrettable que son personnage d'adulte hors norme soit aussi grossièrement écrit. Comédie oblige, mais c'est surtout Sam Rockwell dans le rôle du père divorcé qui apporte toute son originalité au film. Enfin, après, originalité reste un grand mot, l'ensemble est quand même assez mou du genou pour avoir un intérêt significatif. Girls Only aussi entre le film pour ados, avec ses clichés vomitifs et sa morale puritaine, et la comédie cynique pour jeunes adultes. En définitive, à ne savoir sur quel pied danser, eh bien, il s'en mêle un peu et le rythme en pâtit beaucoup. Donc vous pouvez largement vous en passer.
Voilà. Et ça sort
aujourd'hui.
Mercredi 13 mai. C'est Cinérama qui continue avec un film qui est sorti en revanche la semaine d'avant, c'est Pyramide.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Alors, des archéologues américains trouvent une ancienne pyramide enterrée dans le désert égyptien. Alors, sa particularité est d'avoir 3 faces au lieu de 4 habituellement. Alors, détail qui a l'air important dans le film, mais dont on se fout éperdument, nous, pauvres spectateurs, atterrés dès les premières minutes par une telle débâcle artistique. Alors, jugez un peu la stupidité du script de pyramide. Nos très compétents scientifiques décident d'envoyer un robot à l'intérieur de la pyramide. Alors, le robot s'appelle Shorty, copie conforme de celui de Short Circuit de John Badham. Je pense que c'est une référence quand même évidente. Alors, notre cher Shorty est envoyé au cœur de la pyramide afin de mesurer les risques d'une réelle exploration. Mais un incident survient, le contact avec le robot est perdu. Alors la stupéfaction, l'un des scientifiques, sur un ton très sérieux, balance comme si de rien n'était, ça doit être un chien. Mais vraiment, oui, logique, un chien qui aurait survécu quelques milliers d'années à l'intérieur d'un bloc pyramidal enfoui sous le sable en plus. Hein. Alors la suite laisse pantois, alors que le commun des mortels se dirait, il y a un truc qui cloche, laissons les autorités compétentes s'occuper du problème. Le groupe de scientifiques, accompagné de journalistes venus filmer l'événement, décide d'explorer la pyramide afin de retrouver Shorty, qui appartient à la NASA. Et ce qu'ils vont découvrir repousse les limites de l'horreur. Non, je plaisante, juste une créature mi-homme, mi-bête qui va décimer notre petit groupe un par un. Alors pour pimenter l'ensemble, parce que ça ne serait pas drôle, les auteurs de ce nanar ont ajouté des petites bestioles agressives, sorte de sphinx croisés avec des rats. Et c'est un peu tard pour appeler au secours. Alors quand on fait une connerie, on assume.
Je suis le docteur Miles Holden. J'étais professeur à l'université de Princeton. Je suis piégé sur un site archéologique avec ma fille, le docteur Nora Holden, et le caméraman Terry Fitzsimmons. Nous avons besoin d'aide. Cette pyramide, qui ne ressemble à aucune de celles que j'ai pu observer jusqu'ici, semble avoir été construite dans un but précis, celui d'empêcher de sortir quiconque y pénétrera. Alors si vous y entrez, prenez des flingues.
Oui, ça va. Oui, bah, tout le film est comme ça. Au niveau dialogue, c'est assez affligeant. Alors, malgré la réputation exécrable que traînait Pyramide, j'avais néanmoins un vague espoir de visionner une petite série B sympathique, d'autant qu'elle est quand même produite par Alexandre Aja et réalisée par son scénariste Grégory Levasseur. Alors, pas un gage de réussite assuré, mais des films comme Haute Tension, Piranha ou La Colline à des yeux sont plus que comestibles. Or, dans ce film d'horreur de bas étage, tout est foireux et semble écrit réalisant des puits du bon sens. Même une nullité comme Ouija, que j'ai vu la semaine dernière, paraît plus cohérente. Alors, d'emblée, Levasseur hésite entre la réalisation standard, avec vue panoramique sur les pyramides et puis un filmage très classique genre champ contre champ et puis le found footage. Alors en ne choisissant pas un point de vue, en hésitant constamment entre les deux procédés, la mise en scène elle perd toute crédibilité et puis elle est vraiment nullissime. Alors d'autant que les effets numériques sont d'une laideur incroyable et les comédiens sont tellement mauvais qu'on est soulagé à chaque fois que la créature en zigouille. Alors un avis de plus à ma longue liste de 2015 qui est pour l'instant pas mon année.
Ah bah, ça va pas fort.
Je suis quand même pas tombé en dépression à cause des mauvais films. Hein. Je pense que j'ai de l'espoir là, pour Mad Max qui sort demain.
Effectivement, il en sera question un peu plus tard dans l'émission pour jouer au blind test, mais nous allons parler maintenant de Cannes.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Eh bien, justement, en parlant de navet, Manu, pardon, le merci. Saviez-vous, le saviez-vous, il y a seulement 1% des Français qui vont chaque année voir la Palme d'Or. Voilà, c'est un peu triste. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de musique maintenant pour me mettre dans cette ambiance cannoise, s'il vous plaît ? Merci. Alors, cette 68e édition du Festival de Cannes, eh bien, sera aussi la première année sans Gilles Jacob, qui a l'an passé donné la main à Pierre Lescure, passé la main pardon, parce que donner la main ça n'a pas le même sens. Et afin d'étrenner ses nouvelles fonctions de directeur du Festival de Cannes, celui-ci a pris une première mesure drastique qui provoquera sans doute un tollé. Les selfies sur le tapis rouge sont dorénavant interdits. Oui, je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce que ça va changer, parce que apparemment ça provoquait des bouchons et des embouteillages.
Eh oui.
Bon, passons maintenant vraiment au cinéma. Alors comme d'habitude, eh bien Cannes est annoncé par une odeur de soufre. Cette année, c'est le nouveau film de Gaspard Noé, Love, qui préchauffe la presse et les festivaliers. Un film aux affiches très explicites, annoncé comme un drame érotique, en espérant que ce ne soit pas juste un film érotique dramatiquement mauvais, parce qu'aux dernières nouvelles, il n'était toujours pas terminé. Alors si les femmes brillaient par leur absence au cours de la précédente édition, elles sont quand même beaucoup plus présentes cette année. Les films portés par des rôles féminins sont un peu plus importants, et bien que la parité ne soit toujours pas gagnée, l'amélioration est visible. Une sélection plus féminine, plus francophone également, avec une vingtaine de films présentés. Ainsi, les habitués étrangers de la sélection officielle, Briante Mendoza, Naomi Kawase et Apichatpong Veracetakul, ceux dont on adore citer les noms, enfin, lorsqu'on y arrive, mais dont on ne parvient pas à voir un film jusqu'au bout, sont relégués cette année hors de la compétition officielle. Côté caméra d'or qui récompense, rappelons-le, les premiers films, deux acteurs et non des moindres passent à la réalisation et semblent être de sérieux concurrents. Il s'agit de Nathalie Portman avec A Tale of Love and Darkness et de Louis Garrel avec Deux amis. Alors va-t-il hériter du goût de son père pour le noir et blanc, les couples qui se déchirent dans les appartements parisiens en fumant des cigarettes? Nous le découvrirons dans les prochains jours. Et puis un mot du jury pour finir. Alors, lorsque j'avais chroniqué Momie de Xavier Dolan il y a quelques mois de ça, j'avais cité une phrase du jeune cinéaste canadien qui, pour expliquer son rapport à la réalisation, disait « Je fais des films lorsque ça me brûle, lorsque j'en ai assez de rester dans ma chambre à me branler devant une photo de Jake Gyllenhaal ». Eh bien, ça tombe bien, puisque le jury du 68e Festival de Cannes rassemble cette année Xavier Dolan et Jake Gyllenhaal. Ils auront donc plein de choses à se dire, c'est très bien. Un jury présidé par Sabine Azéma qui remettra à Agnès Varda une palme pour l'ensemble de son œuvre. Alors, en général, ça veut dire qu'on suppose qu'elle va nous claquer dans les mains dans pas longtemps. N'empêche que c'est une première pour une femme cinéaste. On ne peut que s'en réjouir. Et puis alors, si on recroise par rapport aux probabilités, aux statistiques, par rapport aux anciens vainqueurs de la Palme d'Or, les nationalités, les thématiques abordées, bref, toutes les caractéristiques en fait, des films qui ont reçu la Palme d'Or ces dernières années, on peut d'ores et déjà supposer que celui qui a le plus grande chance cette année, ça serait le film de Mai Wen, Mon Roi. Le et premier film dans lequel elle n'a... Eh bien, c'est... Voilà, c'est
des,
si on
des
le recoupe...
mathématiciens qui ont
voilà,
bossé là-dessus.
Voilà, c'est par rapport à la nationalité du film, par rapport à sa longueur, par rapport aux thématiques abordées dans le film. C'est celui qui correspondrait le mieux. Donc voilà. Bon. Voilà. Avant même que le festival soit commencé, je vous ai déjà dit qui allait gagner. Ça ne sert à rien de le suivre maintenant.
Eh bien, merci Marine pour cet avant-goût. À noter qu'il y aura quelques films qui sortent pendant Cannes, hein, c'est toujours le cas, et quelques avant-premières. Donc soyez vigilants, regardez le programme de vos cinémas.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Et nous allons jouer donc un blind test sur les films post-apocalyptiques. Hein. C'est à l'occasion de la sortie eh bien, du reboot de Mad Max qui s'appelle Fury Road et qui est toujours réalisé par George Miller qui avait fait les premiers films. Donc ça, c'est déjà bon à savoir parce que...
Et il a fait un pifit aussi.
Oui, ouais, voilà, il a fait quelques échecs commerciaux et c'est pour ça qu'il a tardé d'ailleurs à refaire Mad Max. En tout cas, il sort eh bien, en même temps que Cannes et donc nous allons jouer avec ce genre qui est un sous-genre du film de science-fiction. Hein. Il faut déjà qu'il y ait eu vraiment un cataclysme pour que le film démarre. Et on va commencer avec un film sans doute facile à trouver. C'est d'abord les personnages qui vont vous mettre sur la voie.
Est-ce qu'on va mourir maintenant ?
Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer ? Est-ce que tu crois qu'on va tomber d'un coup et mourir ? Ça prend du temps de mourir de faim, tu sais.
Alors, il y a une sale pluie, hein, il fait très gris.
C'est la route.
Voilà, de film de John Hillcoat avec Viggo Mortensen et puis adapté donc de Cormac McCarthy.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et la musique de Nick Cave, non ? Il me semble.
C'est probable, non,
il me semble
en tout cas,
la musique est de Nick Cave.
Bon, en tout cas, voilà, c'est, voilà, là, on explique eh bien qu'ils vont mourir lentement et c'est effectivement un peu l'impression que ça donne hein, quand on voit le film. Après, il y a du cannibalisme, il y a tout un tas de niveaux de lecture. Enfin, moi, c'est un film que j'avais trouvé absolument fascinant et qui illustre bien, à mon avis, le genre post-apocalyptique. Et alors un autre film qu'on va prendre cette fois-ci dans les années 70.
Mes frères, mes sœurs, regardez bien cet homme. Porte-t-il les stigmates ? Les porte-t-il ?
Non.
Il est tel que nous étions nous-mêmes avant le châtiment, avant d'avoir gagné notre grâce. Cet homme est le dernier des savants, des banquiers, des hommes d'affaires, de tous les adorateurs de la machine.
Oui, oui.
Utilisons-nous comme lui les outils mécaniques ?
Non !
Est-il membre de la famille ?
Non. Non.
Est-il membre de la sainte société ?
Non.
Alors, qui est-il ?
Le démon. Le démon.
Il n'a de place que chez les morts. Il n'a rien à faire parmi nous. La puanteur du pétrole est sur lui. Il respire l'électricité. C'est un rétrograde. Un renégat du passé de l'humanité.
Et vous, de pauvres malades mentaux.
Qu'il est dur d'admettre la vérité. Conduisons-le dans la petite chambre pour y subir la question.
Charlton Heston, le survivant.
Ouais, c'est ça.
C'est... Ouf, bah c'est
le
trouvé...
survivant.
C'est trouvé sur Sagal. Le fil.
Ah, c'est l'adaptation de Je suis une légende.
Voilà,
en fait. Ah,
ouais, ouais. Tout à fait.
Le survivant. Ouais.
Donc un roman. Mais après, il y a eu plusieurs remakes hein, de Omega Man, sachant qu'il est très différent du dernier remake qu'on a vu avec Will Smith. Cette fois-ci, eh bien, on va aller dans les années 60.
Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme.
Alors, la lumière rouge est arrivée.
C'était la jetée de Chris Marker.
Mmh, tout à fait. Donc, c'est un photoroman de 62,
ouais,
c'est ça.
62, ouais.
Voilà. Et c'est presque un court-métrage, hein, 28 minutes, qui est passé bien du côté des chefs-d'œuvre et qui est aussi un film post-apocalyptique d'une
et
certaine manière.
Il y a une adaptation, c'est L'Armée des Douze Singes.
Oui, par Terry Gilliam. On passe à un film français, encore une fois.
C'est pas aussi simple que ça, Brandt. Ces gens ont tout à fait raison. Bon, si nous ne respectons pas les règles les plus élémentaires, autant abandonner tout de suite.
Mais qu'est-ce que vous voulez abandonner? Vous êtes le gardien de l'ordre ici, monsieur Koslowski? Et pourquoi? Parce que vous avez un pistolet dans la poche? Vous voulez nous impressionner, c'est ça?
Oh, fermez-la. Vite tes sacs. Ah, tu vas pas m'obliger à te les prendre. Allez.
Laissez ce garçon tranquille.
Je vous ai dit de la fermer. Avant que vous arriviez, votre femme et vous, il y avait ici des règles qu'on respectait. Des règles indispensables pour pouvoir vivre ensemble de façon plus ou moins civilisée dans cette situation de merde.
Vous appelez ça civilisé, vous?
Et ces règles restent en vigueur même si vous êtes là. Et pour tous les trous du cul qui arrivent ici, c'est clair. Et si ça vous plaît pas, prenez votre femme, vos cliques et vos claques, et disparaissez.
Alors, ça a été trouvé, Manu?
Bah, c'est Le Temps du Loup d'Haneke.
Voilà.
Ça doit être le seul film post-apocalyptique français de ces 20 dernières années, quasiment.
Oui. De ces 20 dernières années, probablement, en tout cas.
Quasiment pas eu. Il y a eu Malville avant, mais...
Oui, dans les années 70, effectivement. Alors donc, plutôt réussi, ce film Le Temps du Loup fait référence à la phrase de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, hein, puisque là, il n'y a plus d'approvisionnement, en fait. Hein, on est en France, et à la campagne, il n'y a plus d'approvisionnement en nourriture. Et là, Haneke met en place, eh bien... des hommes qui essaient finalement de conserver la société, et ça se passe pas forcément très bien. Et on note l'apparition pour la première fois à l'écran de Anaïs Desmoustiers. Voilà. Mmh. En revoyant les images, je me suis rendu compte que c'était elle. Allez, c'est quasiment le dernier extrait.
Toi, t'as pas peur de tomber sur le vieux Georgie en haut du monasol?
Moins peur du diable que du mauvais temps qu'il va faire là-haut.
Tu crois pas qu'il existe? C'est qui a poussé la chute, si c'est pas vieux Georgie?
T'ouvrais tout juste? Sto, les anciens.
Ça, c'est de la fumée. Les anciens, ils avaient la savance. Pour les maladies, les graines, tout. À pousser des miracles, à voler dans le ciel.
Juste, tout juste. Mais ils pas que ça. Ils avaient la soif de dans le cœur. Et une soif plus forte que toute leur savance.
Une soif? De quoi?
De toujours plus.
Alors, ça a été trouvé, Marine?
Oui, c'était Cloud Atlas, des frères Wachowski, enfin des frères-sœurs Wachowski.
Oui, oui. Et de Tom Tickwer aussi, qui a réalisé un segment. Alors, c'est un faux film post-apocalyptique, puisqu'il y a plusieurs segments dans le film. Et là, c'était le segment où on est dans un monde où, effectivement, il n'y a quasiment plus de technologie. Et même le langage, bien, d'une certaine manière, a régressé, hein, puisqu'on l'a bien senti. Ce n'est plus du français, mais voilà, une espèce de patois. On va passer à, alors, avant le post-apocalyptique, c'est juste une espèce de bonus, hein, dans ce blind test.
Pourquoi t'as pas pris l'autoroute?
Parce que je ne veux pas que tout le monde voit qu'on a une voiture qui marche. On va longer l'Hudson jusqu'à ce qu'on trouve un pont ou un ferry. Là, on traversera l'Hudson et on prendra les petites routes à travers le Connecticut pour rejoindre Boston.
Où sont passés les gens?
Seria, ils fuient, ils se cachent dans leur cave.
Si on avait des couilles, on viendrait là-bas pour trouver une de ces choses et la tuer.
Oui, bon, eh ben... Il vaut mieux que tu me laisses prendre les grandes décisions.
Ouais. Tu feras quand? Jamais? Ray? Oh. De toute façon, c'est bien ton style.
J'en ai marre que tu m'appelles Ray. Compris? C'est papa ou chef ou, si tu veux, monsieur Ferrière. Ce qui me semblerait stupide, mais à toi de décider.
Papa.
Oui, Rachel.
Il faut que j'aille aux toilettes.
Tout de suite.
Voilà, donc j'avais précisé, hein, c'est pas vraiment un film post-apocalyptique, ça aurait pu l'être s'il n'y avait pas eu Tom Cruise qui avait trouvé la solution, donc c'est...
Oui, c'est la guerre des mondes.
Voilà, et là c'était une séquence où effectivement on entend la petite famille, parce qu'il y a aussi question de ça, c'est-à-dire que pendant que l'humanité doit se battre contre les envahisseurs, eh bien Tom Cruise essaie de consolider sa famille, et c'est pas facile. Ainsi s'achève ce blind test dans Cinérama, on en retrouvera d'autres eh bien une prochaine fois.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Un premier film, c'est toujours une épreuve. Si certains réalisateurs ont du mal à le réussir, d'autres y arrivent très bien. Et puisque Cannes débute, hein, rappelons quel film a eu la Palme d'Or en 89, c'est Steven Soderbergh avec Sexe, mensonge et vidéo. Preuve qu'on peut réussir son coup. Alors même si Ariel Kleman, le réalisateur de Partisan, ne concourt pas à Cannes, il aurait pu y aller, car son film atypique peut se prêter hein, à la projection en festival. Avec Partisan, nous sommes plongés dans un monde qui ressemble au nôtre, sans être tout à fait le nôtre. Alors il y a un intérieur, un pâté de maison avec ses cours auxquels on accède de la ville en passant par des tunnels, et puis il y a un extérieur qui ressemble au paysage semi-urbain des pays de l'Est, hein, mais des pays de l'Est qui n'y arrivaient pas vraiment. Hein, les pays de l'Est dans les années 70, avec beaucoup de grisaille et de la saleté. Dans ce pâté de maison vivent en autarcie Grégory, entouré de femmes et de leurs enfants. Il est le seul mâle adulte de ce groupe qui l'écoute et lui obéit sans qu'il ait à élever la voix. Alors nous voyons ce monde au travers des yeux d'un enfant, le jeune Alexandre qui est l'aîné de tous ces mômes. C'est avec lui que tout a commencé, que la communauté s'est formée parce que son père adoptif et spirituel a recueilli sa mère alors seule à la maternité. Alors comment, pourquoi ? Eh bien on n'en saura rien. Quelles sont les motivations de Grégory à bâtir son monde entre les murs de ses maisons, à vivre en autarcie avec sa petite communauté ? Là n'est pas le thème du film. Partisan exprime plutôt l'arrachement du jeune Alexandre à la mainmise de son père et de tout enfant qui découvre un moment eh bien, qu'il peut penser par lui-même. Aussi, Alexandre ne sera plus l'enfant pas tout à fait sage qui suit et aime son père, mais celui qui va le dépasser. Alors c'est pourquoi Partisan est un film patient hein, qui avance avec des détails. Tout d'abord, il y a le monde dans lequel on nous plonge, un monde du passé, les objets paraissent vieux, kitsch, dépareillés, un monde où les femmes n'ont rien à dire à part chérir leurs enfants, et puis un monde dont un seul homme fixe les limites et les libertés. Alors même si on y mange, on y parle, on y naît hein, dans ce monde, il est finalement très théorique, il est parfait pour la fable. Et dans sa mise en scène, bien Ariel Kleman épouse le regard du garçon et ses questionnements, confronte l'omniprésence de Grégory et les rares moments de fuite. Alors c'est un film simple, un peu âpre, où le jeu de Cassel est essentiel hein, pour nous arracher à la monotonie, il faut bien l'avouer. Il est tour à tour la figure aimante, compréhensive, celle qui récompense, mais qui est capable d'excuser le mensonge, d'absoudre donc, et également eh bien, de châtier. Le point de départ de ce film est un article du New York Times sur les enfants tueurs en Colombie, mais il ne reste pas grand-chose hein, de ce fait divers, si ce n'est une communauté d'enfants prisonnières, finalement des adultes. Partisan d'Ariel Kleman est sorti la semaine dernière.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
The Intruder de Roger Corman. Voilà. Adam Kramer atterrit dans une petite ville du sud des États-Unis, un peu encline à accepter la nouvelle loi d'intégration raciale dans les écoles. En tant que membre d'une organisation d'extrême droite, il va tenter de soulever l'opinion publique contre cette loi. Les incidents raciaux ne font que débuter.
Je vais vous dire une chose, mes amis. Il fait peut-être chaud ce soir, mais il va bientôt faire chaud pour tout un tas de gens. Une petite ville va mettre le feu aux poudres. Ce que je veux dire, c'est qu'elle va réveiller la conscience de ce pays. Elle va ranimer la flamme qui fait battre nos cœurs, et tout le monde aura les yeux braqués sur elle. Cette petite ville, c'est Caxton. Vous êtes au courant. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. 10 négros ont été autorisés à aller suivre les cours dans le lycée de cette ville. Et personne n'a bougé. Vous les avez laissés faire. Et vous savez ce qu'ils vont se dire ? Ils vont se dire que ça vous est égal, finalement, que les noirs se mélangent aux blancs, puisque vous n'avez rien fait pour l'empêcher. Mais je vous le demande, mes amis, comment un homme pourrait empêcher quelque chose qu'il ne voit pas ? Parce qu'en vérité, on vous a menti depuis le début. Ils ont triché et ils ont trompé presque tout le monde. Ils vous ont bourré le crâne de mensonges écœurants. Ils vous ont laissé dans l'ignorance. Et maintenant que vous allez vous réveiller, ils vont vous dire...
Oh, nous sommes désolés, mais maintenant c'est trop tard. On est d'accord.
Alors, pape de la série B, hein, voire Z, Roger Corman doit sa notoriété à sa très féconde filmographie, mais aussi à sa capacité instinctive de dénicher des talents en herbe, hein, notamment Scorsese, Coppola, Cameron, enfin, et puis tant d'autres. Alors, c'est oublié aussi qu'il fut très souvent un réalisateur inspiré et culotté dans le contexte de l'Amérique puritaine des années 50-60. Alors, outre ses splendides adaptations des plus célèbres nouvelles d'Edgar Poe, Corman signa cet étonnant The Intruder, un drame racial radical dans son propos, ce qui lui valut tout de même une interdiction de sortie pendant 25 ans dans son propre pays. En France, il est même resté totalement inédit et n'a jamais bénéficié d'une sortie vidéo ou d'un passage à la télévision. Alors c'est dire que l'on tient quand même une rareté qui exhumée en DVD bien sûr il y a quelques années grâce aux éditions Backfilm. Alors au premier abord, hein, The Intruder est un drame social profondément engagé et très efficace dans son traitement. Alors par son sens de l'épure et un refus de tout compromis, Corman s'écarte du film antiracial qu'Hollywood produisait de temps à autre pour se donner bonne conscience. Alors à la manière, on va dire, d'un Samuel Fuller en Moi baroque ou d'un Don Siegel, Corman filme sans fioriture son récit peuplé de personnages cupides et racistes, enfermés dans leurs préjugés les plus obsolètes et incapables d'accepter les évolutions de leur pays. Alors à l'exception du voisin d'Adam Kramer et du journaliste, tous les protagonistes blancs sont perçus comme lâches, cruels et potentiellement violents. Alors la description peu reluisante d'une petite ville du Sud permet à Corman de se livrer à une critique bien sentie d'une certaine Amérique, reculée et réfugiée dans ses valeurs réactionnaires. Alors sans grand discours, hein, ni pathos, Corman traite son sujet de façon directe et sans ambiguïté, à la manière des meilleurs films noirs de l'époque. Alors il touche à l'essentiel, ne s'égare jamais de la rigueur de son récit. La marche des jeunes noirs à travers la ville pour se rendre à l'université sous le regard malveillant des habitants est un beau moment de cinéma, émouvant et puissant. Sans dialogue et démonstration, tout est dit à travers cette scène qui rend à un peuple sa dignité. Alors en même temps, et c'est bien le seul défaut majeur du film, tous les noirs de The Intruder sont exemplaires. Alors ce choix manichéen est un peu le grain de sable d'un film par ailleurs bien construit et réalisé. Corman décrit efficacement le processus irréversible de la haine intériorisée qui se transforme en violence exacerbée. Bousculer les braves gens et les masques tombent. Ils peuvent devenir de véritables fous furieux. Alors, en tant que pamphlet politique, The Intruder est une réussite. Mais Corman ne s'en tient pas là. L'autre versant du film, lié évidemment à la teneur contestataire du sujet, réside dans le portrait du fauteur de troubles, Adam Kramer, leader d'un mouvement d'extrême droite qui va mettre la ville à feu et à sang. Alors, génialement incarné par William Shatner, hein, qui n'avait pas encore endossé sa tenue du capitaine Kirk. Ce personnage, avide de pouvoir et expert en manipulation, symbolise tout ce qui effraie chez un futur petit dictateur de pacotille. Alors on pense parfois au personnage fanatique de prédicateur très présent dans le cinéma américain, qu'on avait vu dans Emmer Gantry de Richard Brooks ou Le Malin de John Huston. Optimiste, malgré sa charge très violente contre le racisme quotidien, le film va évidemment pointer du doigt la faiblesse tactique d'Adam Kramer. On ne manipule pas indéfiniment les gens pris dans l'engrenage d'une violence incontrôlée. Kramer finira également par se cramer tout seul. Bon, il est nul le jeu de mots. Hein. Montrer son vrai visage, celui d'un séducteur de bas étage, d'un opportuniste sans programme établi et d'un esprit dangereux et pervers. Alors malgré son happy end de surface, Intruder reste sur un sujet quand même on va dire brûlant, surtout pour l'époque. 53 ans après sa réalisation, un film très efficace et je trouve assez pertinent. Surtout, même quand on le regarde actuellement, vu ce qui se passe en France.
Aux États-Unis
et
même aussi.
Aux États-Unis et en France aussi. Voilà. C'est un film remarquable qui est disponible à vraiment un très bas prix, d'ailleurs.
Merci Manu, en tout cas, et tu reviendras donc avec un nouveau film de Roger Corman. Comme on a quelques secondes, je vais vous parler alors très vite de Certifié Halal de Mahmoud Zemmouri qui sort ce mercredi 13 mai. C'est dans un village reculé du Maghreb, deux convois nuptiaux se télescopent autour du petit édifice du marabout. Dans la confusion, les familles se trompent de mariés, identiquement voilées. Alors, Sultana, la fille du Douar, et Kenza, une jeune Française mariée de force par son frère, vont révolutionner chacune à leur manière ce petit monde traditionnel. Le film donc aborde la condition de la femme en Algérie sur le ton de la comédie, mais tout est tellement caricatural que les acteurs peinent aussi à trouver le ton. C'est de la grosse farce qui n'est pas mise en scène. Hein. Je ne me souviens de rien de drôle d'ailleurs. Enfin, j'ai beau chercher. Alors, juste des longueurs et des lourdeurs et un propos, alors là, très convenu. Notons que Avdia Herzi est particulièrement mauvaise. Enfin, j'ai jamais trouvé très bonne en même temps. Mais là, c'est pire dans une comédie qui est très mal mise en scène. Voilà. Donc, ce certifié halal, franchement, vous pouvez passer à côté.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Écoute bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Moi, la semaine prochaine, je vous parlerai de Good Night Mommy, entre autres. Voilà, à la semaine prochaine.
Mad Max ?
Eh oui, forcément.
Forcément.
Et puis, une autre avant-première, on parlera encore de Cannes. À la semaine prochaine.
Cinérama. Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.